France Culture.
Le journal de la mi-journée est présenté par Marie-Aimée Copleutre. Bonjour Marie-Aimée.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Les secours du monde entier affluent en Birmanie deux jours après le séisme. 1700 morts, c'est le bilan provisoire. Nous serons avec notre envoyé spécial en Thaïlande dans un avion militaire acheminé pour aider les Birmans. SOS Océan à Paris aujourd'hui et demain. Emmanuel Macron réunit diplomates, ONG et scientifiques. Rencontre dédiée à l'océan, trois mois avant la grande conférence des Nations Unies sur l'océan qui va se tenir à Nice. Pour quels enjeux? Nous en parlons dans quelques minutes avec l'invité du journal. Une manifestation cet après-midi près de Grenoble de collectifs environnementaux pour dénoncer l'accaparement des ressources en eau de deux entreprises, Microelectronics et Soiltech. Elles fabriquent des puces électroniques, vont augmenter leur production et capter plus d'eau dans les rivières iséroises. 1700 morts et 3400 blessés en Birmanie. C'est le bilan provisoire ce dimanche, deux jours après le séisme. Les hôpitaux sont totalement débordés sur place, n'ont plus assez de produits médicaux. Urgence, alerte la Croix-Rouge, qui lance un appel aux dons ce midi pour récolter 100 millions de dollars. Quant à l'aide, elle continue d'affluer des pays voisins. L'Inde, la Malaisie, les Philippines ont envoyé des secours, notamment des militaires. La Thaïlande aussi, elle a acheminé son tout premier avion. Ce matin, il est parti de Bangkok, en Thaïlande, où se trouvait notre journaliste Valentin Dunat.
À bord de cet avion militaire, 55 personnes, parmi elles une équipe de recherche et de sauvetage, car comme l'explique Surasanth Kongsiri, porte-parole de l'armée thaïlandaise,
les 72 premières heures sont décisives.
L'autre urgence est médicale, les hôpitaux sont saturés, certains ont été touchés par le séisme. L'ONU parle également d'une grave pénurie de fournitures médicales. La Thaïlande a donc envoyé des médecins et des personnes chargées d'évaluer la situation humanitaire, médicale, mais également sécuritaire. Ce pays est en proie à une guerre civile depuis 4 ans. Il est donc contrôlé par la junte au pouvoir et par différents groupes rebelles. L'un d'eux, les forces de défense populaire, a décrété un cessez-le-feu partiel pour faciliter les opérations de secours.
Je pense que ça revient à dire qu'ils ont ou partagent le même sentiment que lorsqu'il y a une crise comme celle-ci, ils comprennent le besoin d'aide humanitaire. Je pense que c'est très positif.
En effet, ce groupe rebelle entend collaborer avec l'ONU et les ONG pour, dit-il, assurer la sécurité dans les zones qu'il contrôle.
Valentin Dunat à Bangkok avec Sandrine Malon. La Thaïlande également touchée par le séisme, mais de manière moins sévère, on relève 17 morts à Bangkok. En Turquie, le journaliste suédois arrêté et détenu depuis mercredi est accusé de terrorisme. Les autorités attribuent aux journalistes une participation à une manifestation du parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, à Stockholm en 2023. Le PKK considéré comme organisation terroriste par la Turquie. Le média qui emploie le journaliste parle d'accusations absurdes. Le président hongrois Viktor Orban invite Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, la semaine prochaine. Netanyahou va se déplacer, annonce son entourage ce matin, malgré le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui le vise pour des soupçons de crimes de guerre et contre l'humanité à Gaza. Raconter la guerre à Gaza, comment le faire alors que l'enclave est verrouillée? Une troupe de théâtre américano-palestinienne s'est donné cet objectif. Elle est située à Ramallah, en Cisjordanie. La troupe a écrit une pièce qui fait référence à l'histoire. Elle décrit Gaza sous les traits de Guernica, cette ville espagnole bombardée par les Allemands et Italiens en 1937. Guernica, Gaza, à Ramallah. Amira Swilem, notre correspondante, a rencontré les acteurs.
Depuis la terrasse du théâtre, Émile Saba, directeur de la troupe, a la tête un peu ailleurs.
Gaza est par là, et donc on entend d'ici les avions passer et aller bombarder Gaza à 3 heures du matin. Tout cela fait qu'on se sent impuissant et qu'on se demande ce qu'on peut bien faire.
Avec Guernica Gaza, il cherche, dit-il, à humaniser des Gazaouis qui semblent avoir tout perdu, jusqu'à leur identité.
Les informations, même les informations en arabe, nous décrivent comme des numéros. Mais non, on a des noms, on a des histoires, on a des espoirs, on a des rêves. On a le droit d'exister, d'exercer notre art et d'aller au théâtre.
La pièce met en scène des Gazaouis ordinaires pris dans une guerre hors norme. Comme Guernica, le tableau de Picasso, cette pièce entend dénoncer le lourd tribut payé par les populations civiles dans la guerre. Parmi les personnages brossés, celui d'une jeune surfeuse gazaouie de 10 ans, campée par Sacha Asbah. Une expérience dont elle n'est pas sortie indemne, d'autant qu'elle a encore de la famille à Gaza.
On a eu 40 jours de répétition intensive. On répétait tous les jours. Et pendant les pauses, quand on jetait un œil à nos téléphones, on recevait un flot de vidéos de Gaza. Des gens tués, des hôpitaux bombardés. C'est de la folie. On essaie de donner à voir une situation qu'on ne peut pas se représenter en réalité.
Après une tournée en Cisjordanie occupée, la troupe espère maintenant faire voyager la pièce. Mais pour cela, il lui faudra encore obtenir les autorisations israéliennes pour aller à Jérusalem y déposer les demandes de visa.
La correspondance à Ramallah d'Amira Swilem. Ce soir, à 21h, la tour Eiffel se pare de turquoise et les mots SOS Océan seront inscrits sur la place du Trocadéro à l'occasion d'une rencontre sur les océans qui commence aujourd'hui, se termine demain à Paris. Emmanuel Macron a réuni décideurs politiques, scientifiques, ONG, 3 mois avant la grande conférence des Nations Unies sur l'océan, appelée aussi UNOC, qui aura lieu à Nice en juin. Pour nous en parler, Roman Luc est l'invité de ce journal, analyste en stratégie internationale spécialisé sur les enjeux maritimes à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Bonjour Madame Luc.
Bonjour.
Alors quel est l'intérêt de provoquer cette rencontre 3 mois avant la conférence des Nations Unies sur l'océan ?
Alors cette rencontre, en fait, elle va servir de plateforme de mobilisation. Elle va permettre d'aborder les défis majeurs et les priorités de la France et donc de préparer le terrain finalement à la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, donc l'UNOC, qui aura lieu du 9 au 13 juin à Nice et qui est organisée par la France et le Costa Rica.
Et l'un des enjeux majeurs qui revient à travers cette rencontre et qui interviendra dans la conférence des Nations Unies sur l'océan, c'est la ratification d'un traité que l'on appelle le traité sur la haute mer. De quoi s'agit-il ?
Alors, de manière plus générale, en fait, l'UNOC est centrée sur l'objectif de développement durable 14, donc qui vise à conserver et à exploiter durablement l'océan et ses ressources. Donc ça, c'est des sujets très concrets comme la pollution marine, la pêche durable, la lutte contre la surpêche ou la protection de la biodiversité. En revanche, il faut garder en tête que l'UNOC ne porte pas formellement sur le traité sur la conservation de la biodiversité en haute mer, qui est à part. C'est un traité qui a été adopté en 2023, après plus de 15 ans de négociations, et qui vise à protéger la biodiversité dans les eaux internationales, qui, à ce jour, en fait, est encore en attente de ratification. Il faut 60 ratifications pour qu'il puisse entrer en vigueur, mais on n'a actuellement que 21 ratifications. Donc, l'UNOC n'est pas centré là-dessus, mais pourrait servir de moment de mobilisation politique pour accélérer, justement, les ratifications pour l'entrée en vigueur de ce traité.
Et un deuxième sujet qui revient aussi, c'est l'exploitation des grands fonds marins, notamment la possibilité envisagée par certains industriels d'exploiter des nodules dits polymétalliques récupérés dans les fonds marins. Qu'est-ce que sont ces nodules polymétalliques ?
Les nodules polymétalliques, en fait, sont des petites formations qui sont riches en métaux, donc en nickel, en cobalt ou en manganèse, qui sont présents sur les grands fonds marins, donc à, par exemple, 4000 mètres de profondeur. Ces métaux critiques, ils sont importants pour les transitions énergétiques et technologiques, donc il y a une volonté croissante de miner les fonds marins pour avoir accès à ces nodules. En revanche, leur extraction pose des questions sur les risques environnementaux qui pourraient peser, notamment pour les écosystèmes profonds qui sont fragiles et qui, pour beaucoup, n'ont pas encore été étudiés, voire même découverts. Et donc, ces ressources, quand elles se trouvent dans les eaux internationales, elles sont régulées par l'AIFM, l'Autorité internationale des fonds marins, qui vient d'ailleurs de clore la première partie de sa négociation annuelle pour trouver un code minier. À l'heure actuelle, l'exploitation de ces nodules n'est pas autorisée. En revanche, il y a une pression assez forte de certains industriels et États qui sont favorables à une exploitation rapide de ces ressources, alors même que le code minier n'est pas encore trouvé.
Et la France s'y oppose à ça.
Oui, complètement. En fait, en l'absence de connaissances scientifiques suffisantes, la France s'est positionnée en faveur d'un moratoire sur cette exploitation minière, avec 31 autres États qui sont actuellement partis au moratoire. Et donc, c'est une question qui cristallise beaucoup de tensions à l'international entre les États qui sont en faveur de cette exploitation et qui veulent accélérer les négociations pour pouvoir accéder à ces métaux, et les États qui sont plutôt en faveur d'une approche de précaution et donc d'un moratoire. En revanche, l'UNOC n'est pas concernée non plus directement par ces négociations, mais tout comme pour le traité sur la biodiversité en mer, peut constituer un moment politique intéressant pour, par exemple, pousser d'autres États à rejoindre le moratoire et s'opposer à l'exploitation.
Et globalement, une petite minute, en fait, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette rencontre et de l'UNOC globalement ? Est-ce que ça va déboucher sur des lois concrètes ?
Alors non, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'UNOC n'est pas une COP, donc c'est pas comme les COP dont on entend parler tous les ans. Il y aura pas de traité à la fin, il y aura pas d'accord contraignant. En revanche, il y aura une déclaration politique finale qui va servir à guider les priorités internationales sur la question de la gouvernance de l'océan et donc la mise en œuvre de cette ODD 14 dont je parlais tout à l'heure. En fait, ça reste, mine de rien, un moment diplomatique qui est majeur pour l'océan parce qu'il y a des États, des ONG, des scientifiques, des entreprises qui vont s'y retrouver, qui vont pouvoir faire des annonces, construire des coalitions, porter leurs priorités et des engagements en faveur de la conservation de l'océan. Donc ça va plutôt être l'orientation de...
Oui,
allez-y, je vous en prie.
Oui, ce sera plus... je vais devoir arrêter. Merci beaucoup, Romane Luc. Mais comme vous le disiez, plus des accords, des annonces déclaratives plutôt que des mesures contraignantes. Merci beaucoup, Romane Luc, d'avoir été l'invité du Journal de France Culture. Une manifestation contre l'accaparement des ressources en eau et en terre cet après-midi en Isère. Plusieurs collectifs environnementaux, dont les Soulèvements de la Terre et Stop Micro, s'associent pour dénoncer l'accaparement de terre et d'eau de deux entreprises de fabrication de puces électroniques. Elles s'appellent Soytech et ST Microelectronics. Bonjour Delphine Schiels.
Bonjour.
Alors ça se passe donc en Isère, une entreprise qui veut s'agrandir sur 11 hectares, l'autre prévoit de capter de l'eau dans les rivières.
Oui, l'entreprise ST Microelectronics prévoit de construire 6 nouveaux bâtiments pour la fabrication de ses puces électroniques sur le site de Crolle à 15 km de Grenoble et ainsi doubler sa production, ce qui veut dire prélever deux fois plus d'eau. Or, l'industrie des semi-conducteurs est déjà très gourmande, dénonce le collectif Stop Micro, Corentin Prudhomme, son porte-parole.
Ils consomment une quantité d'eau faramineuse aujourd'hui, c'est plus de 16 000 mètres cubes d'eau par jour. Après agrandissement, c'est 33 000 mètres cubes jour. Ça équivaut à la consommation d'eau d'une ville comme Grenoble, de 170 000 habitants par jour pour une seule usine.
L'eau sera prélevée pour partie dans le réseau public d'eau potable et pour partie dans la nappe alluviale, celle des rivières, à partir de forages, et ce dans un contexte de sécheresse de plus en plus fréquente, dénonce encore le collectif.
Il y a une tension sur la ressource en eau qui fait qu'on a les agriculteurs et les habitants qui ont des restrictions pour irriguer les cultures, pour arroser leur jardin, alors que l'industriel n'a aucune restriction.
De son côté, l'industriel ST assure recycler environ 40% de l'eau utilisée et respecter les normes françaises et européennes en termes de rejets chimiques. À noter que le gouvernement qui finance ce projet d'extension à hauteur de 40%, avec près de 3 milliards d'euros investis, vient tout juste de dévoiler sa feuille de route pour améliorer la qualité de l'eau potable, enveloppe 6,5 millions d'euros.
Merci beaucoup Delphine. Demain, fin de la trêve hivernale. Après 5 mois de pause, les locataires qui ne payent plus vont être expulsés. Les associations de droit au logement alertent. Elles craignent une augmentation des renvois. C'est ce qui a été observé les 2 années précédentes, Mathieu Laurent.
19 000 ménages ont été expulsés en 2023, 24 000 en 2024, a compté la Chambre nationale des commissaires de justice, les huissiers. Selon la Fondation pour le logement des défavorisés, l'ex-fondation Abbé Pierre, 140 000 personnes sont menacées cette année. La parole et les actes de certains bailleurs privés et préfets sont de plus en plus décomplexés, relève-t-elle. Bien souvent, sans proposition de relogement ou même d'hébergement, contrairement aux instructions données aux préfets. Le fossé se creuse entre les prix de l'immobilier, alimentés par une hausse spéculative des prix du foncier, et les revenus des ménages. Les prix des loyers s'envolent, cependant que les locataires s'appauvrissent. Plus de 9,1 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, ce qui conduit à une hausse des impayés. L'accès au logement est de plus en plus difficile. Les APL en chute depuis 2017 ont encore fondu, alors que l'on dénombre de plus en plus de logements vacants. Les politiques à l'œuvre ont pour conséquence une gentrification des centres urbains, de leurs périphéries et des secteurs touristiques. Droit au logement demande un plan Marshall du logement social et une régulation du marché.
La fin de la trêve hivernale qui signifie aussi la possibilité pour les énergéticiens de couper le gaz et l'électricité en cas d'impayés. La météo de ce dimanche, du soleil sur l'ouest de la France et le nord, jusqu'à 17 degrés à Rennes, Lille et Paris. Ce sera très couvert dans les régions Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire et dans le Grand Est. En revanche, plus au sud, en Occitanie et en PACA, après-midi ensoleillé, jusqu'à 20 degrés à Nice et Perpignan. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec M. Le Chili.